Nous allons continuer dans notre étude de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Si vous voulez vous tourner avec moi dans le Nouveau Testament. Nous sommes au chapitre 3 de 1 Thessaloniciens. Si vous avez besoin d'une Bible, vous pouvez le signaler, on vous en portera une. Voilà, je vous encourage, si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez en acheter ici. Et il est bon d'avoir une Bible avec soi partout, surtout dans les ascenseurs, si jamais l'ascenseur tombe en panne. Si on est coincé dans une file d'attente, vous sortez votre Bible et c'est une occasion de témoigner de ce qui vous anime. Paul écrit aux Thessaloniciens. Et c'est la merveille de la parole de Dieu, c'est qu'elle est... Elle est tout aussi valable et pertinente aujourd'hui qu'elle l'était lorsque les habitants de cette ville de Thessalonique ont reçu ces paroles par voie de parchemin à l'époque de l'apôtre Paul, voilà près de 2000 ans. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société de l'instantané. On veut être mis au courant des derniers rebondissements de l'affaire Bettencourt, de la dernière échappée du Tour de France. On peut utiliser notre téléphone portable perfectionné maintenant pour avoir les moindres nouvelles, les plus récentes. Mais faisant cela, on perd complètement la notion de ce qui est important et de ce qui est urgent, de ce qui est illusoire et de ce qui est vraiment essentiel. C'est pour ça que je suis toujours heureux de vous retrouver pour ouvrir la parole de Dieu, parce qu'elle ne prend pas une seule ride. Elle est toujours aussi valable pour accomplir l'effet pour lequel le Seigneur l'a envoyée par son Esprit Saint à tous ces auteurs humains qui l'ont transcrite sur des parchemins. Et nous avons le privilège incroyable, énorme, fantastique d'avoir cette parole en nos mains. Mais nous préférons tourner la télé, nous préférons aller voir les dernières nouvelles sur Internet, parce que la Bible, on sait qu'elle est là, on peut aller la voir quand on en aura besoin. Non, encore une fois, je vous invite à pratiquer la Bible, à la lire, au moins, pas besoin de la lire tout d'un coup en un an, ou tout d'un coup en 3 mois, si vous pouvez le faire, tant mieux, mais ce qui est terrible avec ces plans, c'est que ça vous décourage. Vous commencez... Et 3 jours plus tard, vous avez déjà 2 jours de retard et vous dites, à quoi bon? Progressez, lisez un peu, prenez du temps avec Dieu. Le secret du disciple, on a fait allusion à des gens qui disent quel est le secret du disciple, c'est tout bête. Lisez la Bible et priez Dieu chaque jour. Alors, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de temps, mais si vous faites ça, je ne me fais pas de soucis pour votre croissance en tant que chrétien. Et donc, nous abordons le 3e chapitre de cette lettre. Aujourd'hui, on dirait la note Facebook de Paul ou l'email Facebook de Paul aux Thessaloniciens. Nous avons le privilège d'avoir une copie du texte. Et en fait, c'est parce que ça s'adresse tout autant à nous qu'à ces Thessaloniciens. Paul, lors de son 2e voyage missionnaire, avait rencontré ses croyants. Il est intéressant de voir que Paul, c'était pas quelqu'un d'imposant, physiquement, même au niveau de son élocution. Peut-être vous vous dites, mais moi je sais pas parler comme les pasteurs, comme les missionnaires. Je sais pas parler dans la rue, je suis trop timide. Peu importe, Paul n'était pas quelqu'un qui avait un charisme de star de cinéma. C'était quelqu'un qui apparemment était petit, qui avait une apparence pas très ragoûtante, parce qu'il avait une maladie des yeux, il avait peut-être toujours les yeux qui larmoyaient. mais ça n'empêchait pas de parler de ce qu'il avait reçu. Et là, il parlait de l'évangile, il parlait de la bonne nouvelle, du chemin qui mène à Dieu, dont nous avons parlé. Nous avons tendance à nous décourager si facilement. On a été bénis par la visite de ce groupe de Seattle avec le pasteur Craig Fearing, qui a fait cet enseignement que je recommandais au début du mois de juillet. Il a dépassé la cinquantaine, mais il est plus jeune que tous les jeunes de son groupe de jeunes. Et on a quelques personnes qui ont eu la joie de pouvoir se joindre à cette mission qui est passée d'abord à Nice, ensuite à Lyon et à Paris. Ils étaient à Lyon au plus fort de la canicule annuelle de Lyon. On peut en parler à Nicolas qui jouait le keyboard, le clavier ce matin. Il pourra vous donner des histoires. Nathalie qui est allée à Paris. Et ce qui me frappe chez Craig encore une fois, c'est son incroyable énergie et sa confiance en Dieu. Au plein milieu de leur séjour à Paris, ils nous ont envoyé une photo et on voyait la belle contrebasse qui leur permet de faire du swing dans la rue, comme on en a fait à la place Garibaldi, d'inviter les gens à danser avec nous pour communiquer la joie de l'Évangile. Le manche s'est décollé. Et il y avait cette terrible photo, on voyait un espèce de, presque un canot, c'est très grand, une contrebasse, c'est très, très long, très large. Et puis il y avait le manche à côté, et puis les cordes qui traînaient entre les deux. Et on voyait le visage des gens qui regardaient la situation, et pour eux, ça y est, c'était fini. Le diable avait gagné, il les avait rendus incapables de continuer leur mission. Mais pas pour Craig. Craig a trouvé de la colle, il a dû s'y reprendre à deux fois parce que le premier mélange s'est solidifié tout de suite, et il a persévéré. Et dans notre... C'est un petit exemple de ce que fait l'apôtre Paul. Paul, ce deuxième voyage missionnaire, il l'a commencé avec une superbe engueulade avec Barnabas. Barnabas a dit, moi je pars pas si on n'emmène pas Marc. Et Paul a dit, moi je pars pas si on emmène Marc. On a souvent cette impression que si on est frères et sœurs, tout doit être alléluia, oh merveilleux, marcher comme sur la pointe des pieds en dansant dans un jardin de roses. Non, la réalité c'est que nous sommes tous des êtres humains, pas encore complètement rachetés. On a encore cette vieille nature que le Seigneur des fois peut utiliser pour son œuvre. Et dans le cas de Paul et Barnabas, il a dit ces deux-là peuvent pas s'entendre, d'accord, je vais faire deux équipes, on va multiplier le travail. Alors c'est pas, je vous encourage pas nécessairement à vous disputer avec vos frères pour multiplier l'œuvre de Dieu. Mais c'est bon de savoir que Dieu est souverain et qu'il peut orchestrer ces épisodes dans nos vies qui semblent vraiment inspirés par l'ennemi. Et souvent l'ennemi est là, mais Dieu rachète, il tourne les tables sur ce que l'ennemi veut faire. Après cette engueulade homérique qui est décrite en mots très très contenus dans la parole, mais pour qu'elle soit notée dans la parole, on s'imagine que ça a dû chauffer. Et donc Paul décide de partir, il veut aller vers le sud, il est en Asie mineure, dans la Turquie actuelle, et le Saint-Esprit l'en empêche. Finalement, il a une vision d'un Macédonien qui l'appelle « Viens, viens, amener l'Évangile ». Il obéit à la vision, à l'Esprit de Dieu. Il part de Troas, il se retrouve en Macédoine. Là, il trouve des gens dans la ville de Philippe. C'est là qu'il va rencontrer Timothée. Il poursuit jusqu'à la capitale, la grande, une des trois grandes cités de l'Antiquité romaine, Rome, Alexandrie et Thessalonique, une ville de 200 000 habitants, un grand carrefour de communication. Et là, il se retrouve persécuté. Il est obligé de fuir. Il continue, il va aller à Athènes, où on est partagé à savoir si en fait ça, il a essayé d'utiliser la philosophie de l'époque ou les connaissances qu'il avait de la philosophie de l'époque pour attirer des gens à lui. Certains pensent qu'il a peut-être pas été si fructueux que ça, mais peu importe, il se retrouve à Corinthe et il y en a qui diraient ça a été la cata complète. Ça a commencé par une engueulade, on s'est fait persécuter, on a été chassés, ils nous ont retrouvés, on a dû continuer, j'ai dû m'échapper. Je vais retourner en vacances. Non, Paul, au contraire, il sait que quand il y a de l'opposition, c'est bon signe. Et dans nos vies aussi, quand il y a de l'opposition, c'est qu'il y a quelque chose de juste qui se passe. On va le voir, mais la vie de chrétien est de grâce. Ne faites pas croire aux gens qui s'approchent de Jésus que il suffit d'embrasser Jésus, de venir à lui, pour que d'un coup tous nos problèmes disparaissent. C'est pas le cas. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Il va y avoir des difficultés. Mais peu importe, parce que la différence, lorsque vous êtes chrétien, c'est que Jésus va être avec vous pour vous aider à traverser ces épreuves. Il y a des épreuves qui sont le lot de l'humanité. Nous sommes dans un monde qui est entaché par le péché, il y a la mort, on perd des êtres chers, on peut même perdre des êtres chers et douter de l'amour de Dieu. Mais Dieu, si vous lui faites conscience, il va vous supporter, il va vous soutenir. Et que ce soit la maladie, que ce soit la perte d'un être cher, la perte de travail, toutes les difficultés, les persécutions, l'emprisonnement, les calomnies, lorsque vous êtes à Dieu, lorsque vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, la vie n'est plus la même. Vous pouvez avoir une sérénité dans l'épreuve qui est aussi une des marques de la présence de Jésus dans votre vie, de son Esprit Saint. Et ce qui est merveilleux, c'est pas de voir des jeunes chrétiens qui sautent en faisant des roulades, le Seigneur est merveilleux. Non, ce qui est fabuleux pour moi, c'est de voir des saints qui sont passés par des épreuves et qui continuent à avoir cette foi indestructible, cette foi qui est renforcée par les difficultés. On dit que le tibia le plus costaud de l'histoire de l'humanité, c'était celui de Pelé, le célèbre joueur de foot. Pourquoi ? Parce que son genou, sa jambe a été cassée 4 fois. Vous trouvez des fois que les joueurs jouent dur aujourd'hui. À l'époque, il s'est fait casser la jambe 4 fois par des adversaires qui voulaient surtout pas le laisser passer. Mais à chaque fois, l'os était régénéré et il devenait de plus en plus dur à casser. À la fin, il y avait très peu de place pour les muscles parce qu'il avait un tibia énorme. Il a un tibia énorme. On devrait lui demander ça, une radiographie. Mais les épreuves, soit elles vous abattent si vous n'avez pas la foi en Dieu, soit elles vous endurcissent, soit elles vous rendent plus fort pour son œuvre, soit elles vous rendent plus fort auprès des difficultés que vous allez pas manquer de rencontrer. C'est pas un message populaire. Certains chrétiens vous annoncent que, oh, si vous aimez Dieu, si vous avez Jésus dans votre cœur, il va plus y avoir de maladie, il va plus y avoir de pauvreté. Ça, c'est un grand et grave mensonge. Et malheureusement, il y a des gens dans notre ville, et des gens qu'on est amené à côtoyer par le fait qu'ils sont chrétiens, ils participent à certaines activités. Mais je vous mets en garde avec la plus grande solennité contre ce qu'on appelle la doctrine de la prospérité. Dieu veut votre bien. Dieu a de bons plans pour vous, n'en doutez pas. Mais ces plans ne veulent pas dire qu'il n'y aura pas des moments de maladie, il n'y aura pas des moments de mort, il n'y aura pas des moments de pauvreté, de difficulté. Vous dire le contraire, ce serait le plus grave des mensonges. Pourquoi ? Parce que la réalité de la d'un monde déchu, elle est là jusqu'à ce que Jésus revienne. Et que si on vous fait croire ça, dès que les difficultés vont arriver, vous allez dire, mais où est ce Jésus dont on m'a parlé ? Comment se fait-il que mon enfant est malade et peut-être il va pas survivre ? Et j'étais ému, j'ai parlé il y a pas longtemps avec quelqu'un qui a perdu une jeune fille parmi nous qui a perdu son papa à l'âge de 14 ans. Pas la suite d'une longue maladie qui aurait pu préparer un peu les esprits, mais dans un accident de voiture du jour au lendemain. Et je parlais avec elle, elle me disait que oui, ça avait été dur, mais que elle avait persévéré et qu'elle voyait comment Jésus et comment Dieu les avaient aidés, elle et sa famille. Et la foi qui a été testée par les épreuves, encore une fois, elle est plus solide. Et vous pouvez encourager les autres qui passent par ces épreuves. C'est ce que nous dit Paul dans 2 Corinthiens. Pourquoi toutes ces épreuves ? Afin que nous-mêmes, nous soyons à même d'encourager ceux qui passent par les épreuves. Paul est à Corinthe, pardon, lorsqu'il écrit cette lettre. Il n'est resté probablement que peu de temps, il était à Thessalonique pendant 3 sabbats. Il a enseigné ses chrétiens de Thessalonique. Et c'est intéressant de voir qu'un des sujets dont il leur a parlé tout de suite et qui revient à la fin de chacun des chapitres de cette lettre, c'est le prochain retour de Christ. Il n'y a pas un des chapitres qui ne mentionne pas l'avènement, le retour, la venue du Seigneur Jésus. On va en reparler un petit peu. Et son souci, c'était pas de dire « je suis passé à tel endroit, je suis passé à Lyon, j'ai ouvert une église ». D'ailleurs, une bonne nouvelle, c'est que Daniel et Jennifer, en parlant de Lyon, ont eu leur premier service avec 3 personnes qui ont été rencontrées pendant l'évangélisation. Donc il y a des réunions de Calvary Chapel Lyon qui ont commencé. Alléluia. Prions pour eux. Et il voulait s'assurer que ces chrétiens allaient tenir le coup. C'est pas le tout de faire dire à quelqu'un oui, je crois en Jésus, oui, je crois qu'il est vivant. C'est de s'assurer qu'ils sont enracinés dans la vie chrétienne. Qu'ils lisent la parole, qu'ils prient, qu'ils sont en communion fraternelle avec d'autres chrétiens. Et c'était le grand souci de Paul. Il avait ce cœur, il utilise plusieurs métaphores, il dit d'abord qu'il était un de leurs frères, mais il avait agi comme une mère qui prend soin de son bébé. D'ailleurs, nous, sans vouloir la distraire, on a une maman qui prend soin de son bébé. Paul, il s'en occupait comme ça, des Thessaloniciens. C'était des bébés dans la foi. Au bout de 3 semaines, ils avaient entendu parler de beaucoup de sujets, mais Paul se faisait du souci pour eux. Imaginez, vous avez un nouveau-né, 3 semaines, c'est petit encore, même 3 mois, même 3 ans, et vous dites, ciao baby, je te laisse avec quelques personnes. Est-ce que vous feriez pas du souci? Alors bien sûr, c'est toute proportion gardée. C'était ce souci de maman que Paul avait pour ses Thessaloniciens. Il voulait prendre de soin comme de ses enfants. Et puis il était un père aussi. Il n'hésitait pas, à les reprendre, à les exhorter, c'est-à-dire à les encourager, mais avec peut-être cette pointe de reproche, à les consoler, à les adjurer de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Il se réjouissait d'eux, parce qu'il avait entendu de bonnes choses, et on va lire enfin. C'est une longue introduction, on va pouvoir conclure rapidement. 1 Thessaloniciens 3, verset 1. Aussi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter, dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. Car vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. C'est ce qui est arrivé, vous le savez. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'envoyais Timothée s'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, du bon souvenir que vous gardez toujours de nous et de votre désir de nous revoir, désir pareil au nôtre. Ainsi, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, frères, nous avons trouvé notre consolation à votre égard dans votre foi. Maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous lui adressons de très instantes supplications, afin de voir votre visage et de suppléer à ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Encore une fois, Paul a défendu sa personne qui était en but à des attaques de faux frères, non pas par souci de sa propre gloire, mais il veut défendre le messager pour qu'on ne puisse pas attaquer le message. On peut pas dire « faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais ». On n'a pas de crédibilité. Notre vie doit être un miroir, un exemple. Toute proportion gardée, nous sommes des pécheurs, nous ne sommes pas parfaits. Mais si vous voulez qu'on vous écoute, il faut qu'il y ait quelque chose dans votre vie qui donne envie aux autres de vous écouter. Et c'est toujours merveilleux de voir des personnes qui disent « Je me demande ce qui s'est passé dans la vie d'un tel, parce que je le connaissais avant, et maintenant sa vie est transformée. » Ça rend les gens curieux de voir ce qui a transformé dans votre vie. Paul, après avoir défendu son ministère et avoir encouragé, il avait un superbe ministère d'encouragement. Trop souvent, et surtout en France, on est les champions de la grève. S'il y avait une Coupe du Monde de la grève, qui c'est qui l'aurait eu ? Ouais, allez les Bleus ! On en a fait un passe-temps national, rouspété, sans rien proposer. Et nous avons, et ça imprègne toute notre société. On est très fort pour les guignols de l'info. On est très fort pour se moquer, pour critiquer, pour rouspéter. Mais quand il s'agit de faire, quand il s'agit de mouiller le maillot, il n'y a plus personne. Paul veut que ces Thessaloniciens soient encouragés. Est-ce que vous encouragez les autres ou est-ce que vous critiquez ? Moi-même, et j'en demande pardon à ceux qui sont malheureusement victime de ce travers, vous allez faire quelque chose pour le dimanche, et il y en a qui sourient parce qu'elles savent que c'est bien vrai, et vraiment je m'en vante pas. je vais voir ce qui n'est pas aligné au lieu de voir le fait que vous avez passé 3 heures à passer l'aspirateur en pleine chaleur le dimanche matin, le samedi matin. Et c'est pas en disant, tu vois là, non, est-ce que je dois prier et je dois faire un effort sur moi-même pour dire, vous avez fait des choses formidables. Et je tiens à remercier notamment l'équipe jeudi soir. Vous avez fait un travail remarquable. Je sais que Nathalie vous a coaché un peu pour ne pas quitter sans que tout soit remis en ordre. Et je courais aussi avec vous tous et j'ai pas pris le temps de dire vous avez fait un superbe job. Soyez félicités et soyez récompensés par le Seigneur parce que c'était pas facile. Mais je priais pour moi pour que j'ai cette attitude de reconnaissance et d'encouragement. C'est toujours la même histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a la même quantité d'eau, mais on peut encourager, on peut dire il y a l'abondance ou on peut dire il y a rien du tout, rien n'est fait ici. Et je vous fais confiance pendant les 3 semaines où je vais pas être là pour faire un superbe job. Je me rappelle d'ailleurs que lorsque je m'étais absenté il y a quelques années, des gens étaient venus à l'église et avaient été touchés par la prédication de Nigel. Ils avaient dit, on va faire de Calvary Chapel notre église parce que, attention, l'enseignement, c'est vraiment du sérieux, c'est vraiment du... Et c'était même pas le pasteur qui enseignait. Ils ont été un peu déçus, je dois dire, quand ils ont vu le pasteur, ils ont dit, mais il a pas le même zèle que Nigel! Mais encore merci pour ton zèle et ton amour pour partager ton l'évangile, Nigel. Paul veut encourager et il est au point de faire un sacrifice. Il était à Athènes et s'est retrouvé tout seul. Il a dit, je vais faire un sacrifice, je vais envoyer Timothée. Il appelle son frère, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes, car vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Juste votre attitude. Paul se présente toujours avec modestie. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Celui qui cherche à s'élever, le Seigneur va devoir le rabaisser. Celui qui cherche à être humble, le Seigneur va pouvoir l'élever. Ne vous humiliez pas dans l'espoir d'être élevé, parce que le Seigneur sait que c'est votre motivation. Il va pas être dupe. Mais Paul était toujours de la plus extrême humilité. S'il défendait des fois ses prérogatives, c'était encore une fois pas pour lui, mais c'était pour défendre le message. Il défendait le messager que Dieu avait choisi pour protéger l'intégrité du message. Il présente Timothée qui était un jeune pasteur qu'il avait rencontré, qui était encore tout jeune. Et là encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir 60 ans et plus pour être un bon pasteur. Je prie pour que parmi nous, il y ait des jeunes de 20 ans qui se sentent des vocations d'entrer dans le ministère à temps plein. À plein temps ou à temps plein, pour y a pas de plus belle vocation. J'étais ingénieur, j'étais pasteur. J'aimais bien mon travail d'ingénieur, mais j'aime tellement mon travail de pasteur. Quel privilège que d'être appelé à partager la bonne nouvelle. Il appelle Timothée son frère, il dit pas un de mes convertis. Son frère, ils étaient devenus frères et en Christ. Il était un ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ. Le mot utilisé pour ouvrier, c'est un mot qu'on utilise en management aujourd'hui. C'est le mot synergie. Ça veut dire produire du travail avec quelqu'un. Et le concept de synergie, c'est de dire que 1 plus 1, c'est plus grand que 2. Parce qu'il y a, à ce que chacun apporte, il y a quelque chose de plus qui est ajouté. Et on l'a vu mercredi soir avec Manuel, quand on a fait de l'évangélisation sur la place Masséna. Il a une présentation qu'il fait vraiment très bien, avec beaucoup de douceur, de joie, les gens accrochent. J'ai pu faire aussi du sketchboard où on annonce l'évangile en peignant quelque chose sur un tableau. Et le fait qu'on pouvait alterner, le fait qu'il y avait d'autres frères et sœurs qui sont venus aussi nous encourager, parler avec les gens, prier pour nous, ça fait que 1 plus 1, c'était mieux que 2. C'était beaucoup plus. C'était bien d'ailleurs parce que à un moment donné, j'ai vu que dans les gens qui nous regardaient, il y avait monsieur Christian Estrosi. Je dois dire que c'était presque comme un rêve. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas l'air d'écouter en souriant. Il avait l'air un peu agacé qu'on soit là devant la petite guérite de l'office de tourisme de la ville sur la place Masséna. On avait trouvé que c'était bien parce que ça projetait nos voix un petit peu. On pouvait garder nos affaires contre le mur avec un minimum de surveillance. Et il était là pour le 14 juillet, c'était 9h du soir, il allait se rendre au feu d'artifice ou quelque chose. Il y avait le député Rudy Salle et des huiles. On voyait tout de suite parce que tout le monde transpirait, mais eux, ils étaient impeccables dans leur costume gris, pas froissé, chemise blanche, pas un cheveu qui dépassait. Et ils avaient des gens encore plus beaux qu'eux, qui avaient des petits écouteurs dans les oreilles. Les fameux gardes du corps. Et j'ai vu un garde du corps qui s'approchait de moi, alors que j'étais avec mon pinceau rouge, en train de montrer le sang de Jésus qui coulait de la croix. Et j'ai posé mon pinceau, j'ai dit « Oui, je crois que monsieur, vous voulez me dire quelque chose. » Et il a été très très aimable. Je pensais que ils allaient me dire « Donnez-moi votre nom, le maire est en colère. » Il m'a dit « Est-ce que vous pourriez vous mettre 10 mètres à droite ?» Je dis « Oui, je crois qu'on peut faire ça. » Et voilà, ça s'est arrêté. Mais si j'avais été seul, je crois que j'aurais vraiment paniqué. Mais là, je savais qu'on était plusieurs, on priait les uns pour les autres, on filmait la scène. Donc, c'est la synergie. Est-ce que vous êtes ouvrier? Ne travaillez pas tout seul. Il y a des chrétiens qui disent, moi je travaille tout seul parce que les chrétiens, ils sont trop pénibles. Non, justement, les chrétiens, ils vous apprennent à pardonner, ils vous apprennent à vivre comme le Seigneur le veut. Il avait le souci, il leur envoyait pour les affermir et les exhorter, les encourager dans l'intérêt de votre foi. Il voulait les affermir, c'est-à-dire les établir. Tout ce qu'il manquait encore comme connaissance, il voulait que Timothée soit à même de leur apporter cela. Et ça, c'est très important. D'abord, il veut qu'il soit affermi avant d'être encouragé. Si vous encouragez des gens mal affermis, ils vont rester à marcher de façon boiteuse. Ils vont garder leurs mauvais travers. Ils vont avoir pris de mauvaises habitudes parce qu'ils ne savaient pas bien ce qu'il fallait faire. Et ils vont continuer à le faire. Donc là, il veut d'abord établir encore une fois la foi, la vérité de l'évangile, et après les encourager à marcher dans la foi. Et verset 3, c'est ce que nous disions, les tribulations vont venir, ne soyez donc pas ébranlés. C'est le terme qui est utilisé lorsqu'un chien remue la queue, et souvent nous sommes distraits lorsque nous avons des épreuves, comme un chien est distrait par sa queue, il va essayer de la mordre, nous allons perdre de vue les plans du Seigneur, nous allons nous focaliser sur les difficultés. Et Paul le rappelle que je vous avais dit qu'on allait avoir des tribulations, des difficultés, des épreuves. Le mot tribulation, c'était ce qu'on passait dans un champ de blé pour, c'était un bout de bois avec des clous qu'on traînait pour séparer le blé de l'ivraie et des grains, du son. C'est quelque chose d'essentiellement difficile. Et dans la vie chrétienne, je me tourne vers des gens affermis dans la foi qui ont 50 ans de vie chrétienne, peut-être plus, je sais pas. peut-être moins. Ils en ont vu des épreuves, mais ils ont persévéré. Ils n'ont pas baissé les bras, qu'il y ait des maladies, des revers, des disputes, des épreuves. Ils ont tenu ferme. Et maintenant, ils sont là pour nous dire, vous aussi, vous pouvez tenir ferme. Et donc, j'aime bien verset 5, il l'a déjà utilisé, il n'en pouvait plus. Il se disait, non, qu'est-ce qu'ils deviennent à Corinthe? Comment ils vont? Et donc, il a envoyé Timothée parce qu'il savait que l'ennemi, le tentateur, voulait réduire le travail à néant. Nous devons prier pour l'église à Lyon et l'église à Paris, bien sûr. C'est trois, c'est petit, c'est là que l'ennemi veut décourager. Au début, c'est plus facile de décourager quand c'est tout récent. C'est plus facile de déraciner une fleur lorsqu'elle a quelques jours que lorsqu'elle a quelques années, qu'elle est devenue un arbuste ou un petit arbre. Paul voulait surtout pas que le travail soit réduit à néant. Verset 6, Timothée ramène des bonnes nouvelles. Il leur a donné des bonnes nouvelles, c'est le même mot que le mot évangile. La vraie bonne nouvelle avec B et N majuscule, c'est le fait que Jésus est mort pour nos péchés, nous qui sommes des hommes pécheurs, et que si nous l'acceptons dans nos cœurs, il nous donne la vie éternelle, nos péchés sont pardonnés, nous avons une vie abondante dès ici-bas, mais c'est aussi à l'époque, c'était toute bonne nouvelle était un évangile. Et le fait de savoir que il avait des bonnes nouvelles de leur foi, de leur amour, du bon souvenir qu'ils avaient de Paul, c'était quelque chose qui l'encourageait énormément. Au milieu de tous ces problèmes, la pensée de savoir qu'ils allaient bien, qu'ils continuaient, qu'ils persévéraient dans la foi, c'est quelque chose qui les bénissait. Jean disait qu'il n'y avait pas de plus grande joie pour lui que de savoir que ses enfants marchaient dans la vérité. Et pour tout pasteur, c'est une vérité. Si vous partez au Canada, si vous partez à Singapour, si vous partez, peu importe où vous allez, mais si vous marchez dans la vérité, si vous continuez à être des disciples de Christ, même en Allemagne, en Espagne, partout, si je sais que vous marchez dans la vérité, mon cœur est rassuré, mon cœur est satisfait. Mais si on me dit, oui, ils ont embrassé cette nouvelle doctrine, alors redoublons de prières pour que le tentateur ne vous tente pas dans des choses qui ne seraient pas la vérité. Encore une fois, il leur dit, je me réjouis pour vous à cause de votre foi, de votre amour. Mais il ajoute, verset 10, qu'il continue de prier pour eux nuit et jour. Nous adressons de très instantes supplications afin de voir votre visage. Il leur dit, là encore c'est une façon de dire, je veux tellement vous revoir. Mais, j'aime bien comment l'apôtre Paul peut voir le verre à 50% et dire, vous êtes plein de foi, plein d'amour, mais je prie pour que ça se remplisse encore. Parce qu'il veut prier pour suppléer à ce qui manque à leur foi. Alors est-ce qu'il est hypocrite? Est-ce qu'il est schizophrénique? D'un côté, il leur dit, je suis encouragé par votre foi, puis je veux envoyer Timothée pour que votre foi soit bâtisse, grandisse. Non. Encore une fois, il a ce cœur de pasteur, il veut encourager, à davantage. Et puis c'est vrai que de ce côté de l'éternité, notre foi, elle sera jamais parfaite. Nous n'aurons jamais fini de faire confiance à Dieu, d'apprendre à comprendre un peu plus sa parole. Et c'est le travail de toute une vie, et c'est un travail qui sera inachevé de ce côté de l'éternité. Mais il fait une prière dans les derniers versets, il veut prier pour leur foi, faire confiance à Dieu. Il n'y a pas de plus belle prière, c'est la seule façon de plaire à Dieu, c'est la foi. Des fois on pense que si on fait de grands bâtiments, si on écrit plein de livres pour commenter, pour encourager les gens à la foi, que ça va être quelque chose de formidable qui va plaire à Dieu. Mais dans Hébreu, il est dit que sans foi, sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Encore une fois, avec l'image très simple d'un père qui connaît ce qui est bien pour ses enfants, qui leur dit de faire telle ou telle chose, il n'y a rien de plus attristant que de voir l'enfant qui se rebelle, qui pense mieux savoir que vous. Ils sont pas là, je peux raconter que lorsqu'ils étaient enfants, je proposais à Tonio et Sébastien d'aller pêcher dans un lac de montagne avec moi, un week-end. Ah non, je préfère jouer au Nintendo, j'ai mon copain qui m'a prêté une Game Boy, ils n'avaient pas le droit à la Game Boy, parce que ça prenait trop de temps. Et ils préféraient jouer à des jeux de pêche sur leur Game Boy. Et ça, c'est une image du chrétien. On va être prêt à aller au cinéma. On va être prêt à aller dans des voyages organisés au bout du monde. On va être prêt à chercher tous les plaisirs de ce monde, alors que Dieu est là qui nous dit « J'ai une vie abondante pour toi. J'ai une vie réelle. » Ils préféraient le factice. À l'époque, c'était vraiment pas reluisant. Aujourd'hui encore, peut-être, c'est mieux. Mais au lieu d'aller dans une vallée, dans un lac de montagne, dont les eaux brillent au soleil, sous les sapins, avec les truites qui sautent, des vraies truites qu'on peut manger. Et là, on est là, on se fait berner par l'ennemi et on gobe, on regarde la télé. Vous savez combien d'heures un Français moyen passe devant la télé chaque jour? 3h30. Et j'ai peur que pour les chrétiens, ce soit pas mieux. Et je vous pose la question, combien d'heures vous passez devant la télé? Combien d'heures passez-vous dans la prière et dans la parole? Je vous laisse répondre, ou je laisse le Saint-Esprit vous interpeller. La fausse vie, la vie abondante que Dieu vous promet, ceux qui sont venus faire ce voyage de mission là, est-ce que ça a été abondant? Est-ce que ça n'a pas été une aventure formidable? Vous leur parlerez après, peut-être vous avez des doutes. Mais il veut qu'ils aient la foi. Il veut, verset 12, que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et pour ceux qui sont au dehors. Encore une fois, le signe du chrétien, c'est pas le logo, c'est pas l'autocollant sur la voiture, c'est pas la taille de la Bible, c'est pas la tonalité, le ton. Oui, mon enfant, le Seigneur est... Non, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et ça, c'est le plus beau témoignage. Après, on peut parler, on peut annoncer l'évangile. Lorsque les gens voient une réalité, une sérénité, un bonheur d'être ensemble. Et c'est tous les chrétiens. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pas seulement les gens de Calvary-Chapelle, pas les baptistes ou pas les assemblées de Dieu. Je suis heureux d'avoir Marcel et Michel aujourd'hui parmi nous. Parce que nous nous aimons en Christ. Et ça, c'est le signe qui nous permet de dire aux autres, nous sommes les disciples de Jésus, venez, venez voir, venez à lui, viens et vois, comme disent nos frères des assemblées qui ont cette église qui porte ce nom. Que cet amour, ce soit pas de l'amour, c'est que ça déborde. Il y en a plein, parce qu'on le prend à la source. Si on boit de l'eau de vie de notre Seigneur, l'Esprit Saint va nous donner de déborder pour lui vers les autres. Si on a notre petit verre et qu'on le boit en cachette, ça va pas affecter les autres. Mais s'il y a une fontaine qui abreuve, qui jaillit, qui rafraîchit, alors les autres vont venir. Et puis, dernier point, il prie pour leur sainteté, afin que votre vie soit sans reproche devant Dieu notre Père à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Encore une fois, il parle du fait que Jésus va revenir et il le lie ça avec une vie de sainteté. Dieu nous a donné l'Esprit Saint, il nous a donné le pouvoir de dire non au péché. Le chrétien qui pêche, c'est un chrétien qui le veut bien. Nous pouvons demander à Dieu de nous fortifier pour résister à la tentation, pour mener des vies dignes du Seigneur. Et c'est vrai que c'est toujours l'idée de savoir que Jésus va revenir, ça nous encourage à la sainteté. Si je vous annonçais que on m'a appris de sources sûres et bien informées que Jésus va revenir ce soir, et il peut revenir ce soir, parce que la vérité c'est qu'on ne sait pas quand il va revenir, et qu'il l'a décidé ainsi pour qu'à tout moment on se dise « Oh, si, mais prenons concrètement, s'il revenait ce soir, quelles sont les choses que vous changeriez dans votre vie ?» Je laisse l'Esprit Saint vous les montrer. Il n'y a aucune raison pour ne pas changer ces choses, même s'il revient en 2070. Ou en 2050, ou en 2020, ou l'an prochain à la même heure. La sainteté et le retour de Christ, lorsque l'on pêche, on pense qu'on peut s'en tirer, mais si on sait que Jésus nous regarde, que Dieu, à qui rien n'est caché, nous voit, ça change tout. Paul, c'est son souci, et il a envoyé Timothée pour que Timothée s'occupe de ses tâches. Il veut pas qu'ils aient du ressentiment envers Dieu à cause de la persécution. Il veut qu'ils grandissent dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté. Et l'application pour vous aujourd'hui, c'est d'être le Timothée de quelqu'un. Le Timothée, ou on va dire la Timothéa, pour vous les dames, de quelqu'un. Quelqu'un qui est en recherche, quelqu'un qui est jeune dans la foi. Vous qui en savez un peu plus, vous pouvez être cet encouragement, cette exhortation, cette personne qui va affermir et encourager les autres à marcher avec Dieu. Et ça, c'est merveilleux d'être utilisé ainsi par le Seigneur. Et nous pouvons tous être le Timothée ou la Timothéa de quelqu'un d'autre. Demandez à Dieu de vous diriger, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux et allez-y. Amen. On va terminer par la prière. Seigneur, merci pour l'apôtre Paul et sa persévérance et son souci des autres, son amour pour les autres qui était inspiré par l'Esprit Saint que tu avais mis sur lui, Seigneur, en lui d'abord et sur lui ensuite. Nous te demandons d'être remplis du même Esprit Saint et d'avoir cette baptême du Saint-Esprit, cet Esprit Saint sur nous, Seigneur, qui nous permet d'être des témoins efficaces. Comme Luc nous l'explique dans Actes 1-8, lorsque Jésus disait « Soyez mes disciples, attendez que l'Esprit de Dieu vienne sur vous ».